Le second tour des élections législatives, l'événement politique est sur Europe 1.
Laurence Ferrari.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans cette édition spéciale second tour des législatives. Une soirée que nous allons vivre en direct sur CNews et sur Europe 1 avec nos reporters déployés sur le terrain, dans le QG des principaux candidats et bien sûr des partis politiques qui sont à couteau tiré, vous le savez, pour obtenir le précieux sésame, la majorité de députés à l'Assemblée nationale, ce qui permet de peser politiquement, de faire voter les réformes pour le président Emmanuel Macron ou bien de le contrer, de contrebalancer son pouvoir si l'opposition réussit à lui faire perdre la main dans l'hémicycle. 577 députés vont rejoindre dès demain le Palais Bourbon, le lieu où se jouera le quinquennat d'Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon est en embuscade, prêt à faire trébucher la majorité présidentielle. Va-t-il réussir son pari de transformer ses législatives en troisième tour de la présidentielle alors qu'il n'a pourtant pas été qualifié pour la finale? On verra si la poussée de ses candidats se poursuit ce soir. Quid du Rassemblement National qui espère pouvoir obtenir un groupe à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire au moins 15 députés. Et puis des Républicains, les LR, qui ne veulent pas jouer la force d'appoint pour le président Macron. Des surprises sont à prévoir, bien entendu, tout au long de cette soirée sur Europe 1 et sur CNews. Plusieurs ministres pourraient prendre la porte directement et quitter le gouvernement s'ils ne sont pas élus. On suit tout cela de très près. Et d'abord, je vous l'annonce en exclusivité, le parti qui a d'ores et déjà gagné largement ses législatives, malheureusement, c'est l'abstention. Ce chiffre, 53,5% d'abstention, c'est notre estimation OpinionWay. On va y revenir dans un instant avec Bruno Jambard qui est là, évidemment, pour nous décrypter tous les chiffres qui vont tomber tout au long de la soirée, vice-président d'OpinionWay. Nous sommes avec aussi Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis.
Bonsoir Laurence.
Charlotte Dornelas, journaliste à Valeurs Actuelles. Bonsoir Charlotte. Mathieu Boccoté, figure de CNews, sociologue essayiste. Bonsoir.
Bonsoir
Mathieu. Nous sommes avec Jean-Sébastien Ferjou, directeur d'Atlantico, et Gérard Leclerc. Bonsoir, bonsoir, journaliste politique. Donc, je vous le disais, malheureusement, ce chiffre de l'abstention, on y revient dans un instant. On va se diriger tout de suite vers Marie Conant, l'une de nos envoyées spéciales. Là, elle est au ministère de l'Intérieur, là où on comptabilise tous les votes. Marie, avec vous, on va voir la participation à 19h. Où en est-elle? Est-ce qu'elle est en baisse, évidemment, par rapport à il y a 5 ans?
Eh bien, les derniers chiffres que nous avons sont tombés à 17h avec une participation de 38,11%, soit 1,31 points de moins que la semaine dernière. Les électeurs semblent donc s'être moins mobilisés qu'au premier tour. On verra si cette tendance se confirme ce soir avec les résultats définitifs. Donc ce chiffre de 38,11% est faible en comparaison aux élections des 20 dernières années, 2002, 2007, 2012, mais reste en hausse hein, tout de même. Si l'on se réfère aux dernières élections législatives de 2017, le taux de participation à ce moment-là, à 17h, était alors de 35,33%, le taux le plus bas de la Ve République.
Merci beaucoup Marie Conant, avec Gladys Laffitte au ministère de l'Intérieur. Alors nous, on va s'intéresser avec vous, Bruno Jambard, au chiffre de l'abstention. C'est un peu différent, évidemment. Là, il est très important, 53,5%. Ça veut dire que plus d'un Français sur deux ne s'est pas déplacé. C'est ça aujourd'hui?
Oui, tout à fait. C'est un chiffre très élevé. C'est un point de plus que la semaine dernière. Je rappelle que la semaine dernière, c'était un record pour une abstention aux élections législatives. Alors c'est quand même près de 4 points de moins en abstention que lors du second tour des législatives de 2017. Donc l'écart du premier au second tour cette année est beaucoup plus réduit qu'il ne l'avait été il y a 5 ans. Mais c'est la preuve qu'un certain nombre d'électeurs qui ont eu leur candidat éliminé ne se sont pas retrouvés dans ce scrutin de second tour. Et maintenant, reste à savoir qui s'est abstenu plus que les autres pour savoir qui l'emportera évidemment ce soir et qui réussira à surperformer en nombre de sièges.
Alors, Louis de Ragnel, évidemment, on est tous impatients de savoir quel groupe politique va remporter la majorité à l'Assemblée, parce que c'est comme ça qu'on pèse, on est d'accord. Hein.
Absolument.
C'est comme ça qu'on bloque les réformes, qu'on les fait voter à contrario.
Alors, la majorité la plus importante, c'est est-ce que Emmanuel Macron aura la majorité absolue? On sait que c'était très tendu la semaine dernière, donc c'est déterminant pour la poursuite du quinquennat. Et puis ensuite, on regardera très attentivement combien de députés, la NUP, le parti, la formation créée par Jean-Luc Mélenchon, combien donc il y a de députés qui sont élus à l'Assemblée nationale. On regardera également les députés RN qui seront élus. Est-ce que Marine Le Pen a réussi à faire élire plus de députés que prévu? Et puis évidemment, il y a la question des Républicains qui sera sans doute la force pivot du prochain quinquennat. Donc on verra aussi, il y aura des conséquences politiques de ce résultat. Que feront les Républicains au lendemain de ce second tour? Est-ce qu'il y en a certains qui seront tentés par le fait de rejoindre Emmanuel Macron? Est-ce qu'au contraire, les Républicains resteront soudés? Tout ça, pour le coup, ce sont des enjeux extrêmement importants, parce qu'ensuite, voilà, sera déterminée la capacité d'Emmanuel Macron à mettre en application son programme. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de suspense.
Il y a beaucoup de suspense.
Rien n'est joué
d'avance. Il y a beaucoup de ministres aussi. Hein, on va s'intéresser à leur sort.
Stanislas Guérini, Clément Beaune,
Amélie Montchalin.
Et puis des anciens
Elisabeth
ministres,
Borne aussi, la première
Christophe
ministre.
Castaner, on regardera de très près le résultat
de son
élection, effectivement. Il est quand même le chef du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale.
On va juste retourner faire un petit tour au ministère de l'Intérieur. J'ai oublié de vous demander, ma chère Marie Conant, quels sont les départements qui ont le plus voté et ceux qui ont le moins voté? Parce que ça, c'est très intéressant, ça nous donnera aussi une indication.
Oui, effectivement, les disparités régionales qui s'étaient dessinées ce matin, qui s'étaient déjà dessinées la semaine dernière, se sont confirmées en fin d'après-midi. Et comme souvent, c'est en région parisienne que les départements ont le moins voté. Le Val-d'Oise, la Moselle et en bas du classement, sans surprise, la Seine-Saint-Denis avec moins de 26% de votants à 17h. Et puis, il y a les bons élèves qui se trouvent plutôt en zone rurale, comme au premier tour, c'est dans le département du Lot que les électeurs se sont le plus déplacés. Donc à la seconde place du classement, on retrouve la Haute-Vienne puis la Dordogne. Dans ces départements, près d'un électeur sur deux est allé voter à 17h, mais aucun département en France n'a dépassé les 50%.
Merci beaucoup Marie pour cette dernière précision. Charlotte Dornelas, l'abstention évidemment toujours extrêmement importante, et puis l'œil rivé sur ces questions de majorité qui vont déterminer la politique qui sera menée dans les 5 ans à venir, les réformes qui passeront ou pas.
Mais c'est pour ça que l'entre-deux-tours a permis de parler beaucoup de la question de la majorité et de la possible majorité relative d'Emmanuel Macron. L'abstention, elle peut se lire différemment de la semaine dernière. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a une désaffection et le fait que les gens ne se retrouvent pas dans les offres politiques qui leur sont proposées. Mais là, il y a surtout c'est moi ou le chaos, ou j'ai le diable en face de moi et je ne pourrai rien faire si vous n'êtes pas là. Et ben, les gens ne sont pas là quand même. Et donc, ça joue. Il pourrait y avoir des gens qui aillent voter dans un second tour en se disant on ne peut pas laisser faire ça dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs. Et bien non, quoi. L'abstention reste extrêmement forte. Donc, je pense que la désaffection, ou en tout cas le désintérêt, est profond. Quoi, pour...
Mathieu Bock-Côté, Emmanuel Macron, on s'en rappelle, avait appelé au sursaut au nom de l'intérêt supérieur de la nation. Visiblement, son appel n'a pas été entendu.
Non, mais en fait, le décrochage entre le système politique et la population a tendance à se radicaliser entre les deux tours, c'est-à-dire entre la présidentielle et les législatives, et entre les deux tours des législatives. Donc, on peut se demander dans quelle mesure, d'ailleurs, les courants qui seront présents à l'Assemblée sont véritablement représentatifs des courants politiques, ou idéologiques plutôt, ou sociologiques qui traversent, qui travaillent le fond du pays. Donc, une panne de la représentation. Puis ensuite, les appels au sursaut, les appels au barrage, les appels à plus jamais ci, plus jamais ça, il se peut que ça fonctionne de moins en moins. L'injonction morale en politique est peut-être moins à la mode aujourd'hui qu'auparavant.
Gérard Leclerc, on va avoir les yeux quand même braqués sur Jean-Luc Mélenchon et ses alliés de la NUPES pour savoir s'ils ont réussi leur pari ou pas, voilà, s'ils arrivent à avoir un nombre important de députés. Ils visent la majorité absolue, ce qui serait évidemment un événement politique.
Alors, ce serait effectivement un événement, mais même s'ils n'ont pas la majorité absolue et que Emmanuel Macron n'a pas de majorité absolue, c'est quand même un cas tout à fait exceptionnel. Ça ne s'est produit en fait qu'une seule fois entre 88 et 93. C'était assez compliqué, mais à l'époque, ça l'était peut-être moins que ça ne le sera demain, si c'est le cas, parce que c'était quand même des partis sur un certain nombre de questions. Par exemple, la question européenne, entre les Républicains de l'époque, qui devaient être l'UMP, si je me souviens, ou le RPR, c'était le RPR, oui.
Ça remonte.
Et les socialistes, c'était pas aussi éloigné que ça. Là, cette fois-ci, on risque d'avoir donc un président qui n'a pas de majorité absolue et qui donc va devoir aller négocier au cas par cas, selon les textes, un coup avec les Républicains, peut-être un coup avec les écologistes, etc. Enfin, ça risque d'être très compliqué. S'il n'a pas de majorité, ce qui n'est pas
attendez,
pour l'instant, on n'en sait rien.
Il est 19h07.
Ce que je veux dire, c'est que en tout cas, s'il en croit absolument à la vue des sondages, c'est la première fois quasiment que ça se produirait depuis donc 88.
On est en direct sur Europe 1 et sur CNews, Jean-Sébastien Ferjou, et finalement, ça serait une première pratiquement depuis quelques années qu'un président réélu n'aurait pas de majorité à l'Assemblée.
En même temps, le fait qu'un président soit réélu est une première.
Oui, ça fait des premières dans tous les sens.
Été après de cohabitation. Donc, de facto, c'était des alternances politiques. Là, il n'y a pas d'alternance, mais on ne voit pas non plus une envie de stabilité. Moi, à mon sens, il y a plutôt des Français qui se sentent orphelins de représentation, comme on disait la semaine dernière, comme ça a été rappelé là. Et dans cette absence de représentation et de discours de représentation du monde aussi qui leur paraissent convaincants, ben, finalement, il y a le statu quo ou des alternatives. Et puis le statu quo en position centrale est en général avantagé. Alors on verra bien ce qu'il en est in fine. Mais quoi qu'il en soit, je retiens quand même ce que disait Bruno Jambard. Il y a un petit écart en moins que ce qu'on avait connu en 2017 dans l'entre-deux-tours. Donc on ne peut pas exclure une petite remobilisation relative de l'un des deux électorats les plus concernés.
C'est-à-dire
celui d'Emmanuel Macron ou celui de Jean-Luc Mélenchon.
Peut-être
parce que c'est vrai qu'en 2017, on avait vu 5 points d'écart, comme le rappelait, de participation entre deux tours des législatives.
Bruno Jambard, il y a une indication quand il y a un tout petit sursaut de mobilisation, on sait à qui ça profite, aux partis en place ou aux oppositions ?
Non, c'est très difficile à dire, d'autant qu'il faut bien comprendre que derrière ce chiffre de 1 point de moins de participation, vous avez des électeurs qui quittent, principalement des électeurs dont le candidat a été éliminé au premier tour, et puis vous avez des nouveaux électeurs qui arrivent. Et donc ce sont des flux qui sont assez difficiles à estimer, et en fait il faut les regarder circonscription par circonscription. Ce que l'on peut attendre ce soir, c'est que l'abstention sera plus forte dans des circonscriptions en duel face au Rassemblement national, par exemple, que dans les duels entre la majorité présidentielle et la gauche.
À 20h, qu'est-ce qu'on aura, Bruno Jambard, sur l'antenne de CNews et Europe 1 ? On aura le nombre de sièges par parti, par ensemble politique, c'est ça ?
Alors à 20h, on aura une première projection en sièges, avec des fourchettes, parce que évidemment, c'est difficile, notamment dans les circonscriptions.
Et les couteaux, c'est dans les partis politiques.
Voilà.
Facile.
Et il est possible, nous ne savons pas si à 20h, nous aurons la réponse sur la question de la majorité absolue ou pas. C'est encore trop tôt pour le dire.
Mathieu Bock-Côté, ça serait quand même assez intéressant de voir où le vent va tourner, évidemment, et comment gouverner une assemblée ingouvernable, au fond.
Bah alors, si le scénario d'une majorité relative se dessine, donc l'absence de majorité absolue, ça veut dire que la plupart du temps, vu la culture de l'opposition radicale, qui est celle de la NUP, la NUPES, et puisqu'on s'attend, on ne s'attend pas à ce que Emmanuel Macron cherche à s'entendre avec le Rassemblement national, ce que ça voudrait dire, c'est que les Républicains deviendraient le groupe pivot. Mais ça viendrait paradoxalement parachever leur intégration dans dans le grand parti majoritaire présidentiel, qui en aurait la composante officielle autour d'Emmanuel Macron, et le parti pivot, qui finalement renoncerait à une forme d'opposition, d'opposition forte au pouvoir. Et on retrouve ici la figure du début du quinquennat d'Emmanuel Macron, où les Républicains étaient obsédés à l'idée d'être des opposants constructifs. Donc des opposants de l'intérieur, en quelque sorte.
Ils le sont moins maintenant. Ils ont moins envie d'être des opposants constructifs.
Si finalement la condition d'une majorité reconduite de l'efficacité gouvernementale, c'est la capacité d'intégrer les Républicains ici, je ne doute pas de leur esprit de coopération.
Louis Dragnel, ils vont coopérer ?
Alors ça, j'en sais rien, parce qu'il y a une partie des Républicains qui ont soutenu déjà Emmanuel Macron. Il y en a d'autres qui ont été battus dès le premier tour. Donc aujourd'hui, quand même, l'enjeu pour la survie des Républicains, c'est de rester à peu près soudés. Il y a juste quand même deux sujets extrêmement importants.
Si
Emmanuel Macron a une majorité relative, qui va prendre la présidence de la Commission des Finances, qui vote quand même, qui détermine le budget, qui détermine donc tous les enjeux de financement de la vie de notre société. Et puis, il y a une autre commission à laquelle on s'est peu intéressé ces dernières années, c'est la commission défense de l'Assemblée nationale. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait pas de problème, puisque c'était les LR, le PS et globalement La République En Marche qui gérait, et c'était des PS raisonnables, LR raisonnables. Si à partir de demain, si et seulement si, donc Emmanuel, la NUP obtient plus de sièges que prévu et Emmanuel Macron n'a pas la majorité absolue, eh bien ça veut dire que des députés de gauche vont prendre beaucoup plus de place dans cette commission. Est-ce que
la loi de programmation militaire
sera il y a des enjeux de renouvellement, notamment sur le nucléaire, sur des sujets vraiment fondamentaux. Et donc, à partir de ce soir et donc peut-être la semaine prochaine, on en saura plus, mais voilà, c'est quand même
vous avez raison de nous interpeller sur cette commission de la défense, parce que ça pèsera évidemment lourd
dans les prochaines semaines. Avec le contexte de la guerre en Ukraine,
c'est quand même très sensible. Et le voyage d'Emmanuel Macron en Ukraine. On va tout de suite partir sur le terrain, rejoindre nos envoyés spéciaux. Samy Sfaxi et Olivier Gangloff sont devant l'Elysée. Bonsoir à tous les deux. Est-ce que le président Macron est arrivé à l'Elysée ? Il a voté au Touquet, on le sait, dans la journée.
Bonsoir Laurence. Oui, écoutez, Emmanuel Macron est bien arrivé à l'Élysée. On a vu aussi il y a quelques minutes Elisabeth Borne, sa première ministre, rejoindre le palais de l'Élysée. Et à l'heure où je vous parle, eh bien, il y a cette réunion qui est en train de se tenir au palais de l'Élysée entre Emmanuel Macron, Elisabeth Borne, mais aussi d'autres conseillers politiques, d'autres ministres pour eh bien, se ajuster en tout cas les différents éléments de langage avant que les différents lieutenants partent sur les plateaux télé distiller la parole présidentielle. Mais qu'est-ce qu'elle est importante cette élection législative. Emmanuel Macron le sait, ça va donner le ton de son quinquennat. Et puis, il faut le dire, Laurence, le quinquennat d'Emmanuel Macron, il commence dès ce soir parce que depuis deux mois, il ne se passe pas grand-chose en politique intérieure. Emmanuel Macron, le président, on l'a beaucoup vu sur la scène politique internationale, mais tant qu'il n'y avait pas de nouvelle assemblée, eh bien, il ne se passait vraiment pas grand-chose. Quelques bribes d'informations sur le pouvoir d'achat, sur le Conseil national de la refondation, mais rien de très, en tout cas, impactant pour les Français. Donc le quinquennat, il commence ce soir. C'est donc une soirée électorale sous très haute tension pour le président de la République. Et dans l'entourage du chef de l'État, on m'expliquait eh bien, que s'il y avait des résultats qui pouvaient être serrés, on compterait les voix jusque très tard. Un dernier mot, Laurence, pour vous dire quid des 15 ministres qui sont engagés dans ces législatives. Est-ce qu'ils vont rester ou est-ce qu'on est à l'aube d'un remaniement en profondeur? Réponse à 20h.
Merci beaucoup. Samis Faxi, Olivier Gangloff, au QG de Renaissance, qui est donc le nouveau parti présidentiel. Jacques Serret, d'Europe 1, avec Thibault Marcheteau. Jacques, quelle est l'ambiance sur place? Est-ce que, bon, déjà, vous êtes dans la rue. Et est-ce qu'il y a quelques militants qui sont arrivés ou pas?
Bah écoutez, c'est encore très calme ici, rue du Rocher, à Paris. Pas encore de militants, les militants de Sylvain Maillard qui doivent venir ici, puisque le QG accueille ce soir la soirée électorale du candidat de la première circonscription de Paris, la circonscription où on se trouve ici, donc, à Paris. Mais contrairement à la semaine dernière, ni Elisabeth Borne, ni Stanislas Guérini n'ont prévu de venir s'exprimer ici depuis le QG, tout simplement parce qu'Elisabeth Borne doit prendre la parole normalement peu après 20h depuis l'hôtel de Matignon. Un conseiller m'expliquait qu'il s'agit pour elle dès ce soir d'endosser potentiellement le rôle, le poste de chef de la majorité. Et Stanislas Guérini, lui, doit rester dans sa circonscription parisienne. L'actuel ministre de la Transformation et de la Fonction publique est aussi candidat à sa succession dans sa circonscription. Donc ici, rue du Rocher, c'est une soirée en toute sobriété qui s'annonce normalement.
Merci beaucoup, Jacques Serret. Le contraire m'aurait étonné, mais bon, voilà. Merci, on vous retrouve dans un instant avec Thibault Marcheteau. Allez, dernier petit coup de sonde qu'on va faire comme ça avant 20h. On va aller du côté de la NUPES, qui se réunit ce soir à l'Élysée-Montmartre. C'est une salle à Paris. Florian Tardif est sur place avec Charles Baget. Alors, Florian, Jean-Luc Mélenchon est arrivé, il est entouré de son cercle rapproché et ils sont en train d'analyser les premiers chiffres qui leur parviennent, c'est ça ?
Tout à fait, Laurence. Jean-Luc Mélenchon et sa garde rapprochée est en train d'analyser les premiers résultats partiels qui commencent à affluer ici à l'Élysée-Montmartre, juste derrière ce rideau qui a été installé pour l'occasion et qui se trouve à droite de la scène où s'exprimera le leader de la France insoumise. Vraisemblablement, m'expliquait son entourage, aux alentours de 20h30, Jean-Luc Mélenchon souhaite être le premier représentant politique de notre pays à s'exprimer ce soir, quelques minutes, vous l'avez compris, après la divulgation des premières estimations. Pour l'heure, la gauche, c'est 64 députés à l'Assemblée nationale. Tout l'enjeu, m'expliquait un membre dans l'entourage de Jean-Luc Mélenchon, est de savoir quel coefficient multiplicateur on met derrière ce chiffre à l'issue de ce second tour des élections législatives. Est-ce que c'est 2? Est-ce que c'est 3? Est-ce que la NUPES va réussir à obtenir 120 députés, 180 députés ou plus? C'est toute la question. L'objectif affiché par Jean-Luc Mélenchon depuis le début de cette campagne des élections législatives, c'était d'obtenir une majorité à l'Assemblée nationale. Pourquoi ? Pour que Emmanuel Macron le nomme Premier ministre. Si cet objectif n'est pas atteint, le second objectif de la France insoumise, c'est de peser à la fois grâce à cette alliance des partis de gauche, mais également au sein de cette alliance des partis de gauche. La France insoumise souhaiterait devenir la première force d'opposition à l'Assemblée nationale. Pourquoi ? Vous l'avez évoqué à l'instant, tout simplement parce qu'en étant devant le Rassemblement national, devant les autres partis de gauche ou encore devant les Républicains, la France Insoumise, si tel est le cas, obtiendrait des postes stratégiques au sein du Palais Bourbon, à commencer par exemple par la présidence de la Commission des Finances.
Merci beaucoup Florian Tardif. Sur place avec Charles Baget, le Rassemblement National, on va se tourner vers Hénin Beaumont, là où Marine Le Pen se présentait. Gauthier Lebret est sur place avec Sacha Ropin. Gauthier, Marine Le Pen avait fait un très gros score dès le premier tour.
Oui, elle avait fait 54%, Marine Le Pen précisément, Laurence, mais elle a dû se soumettre à un second tour face à la candidate de la NUPES, puisque l'abstention était trop forte, la participation trop faible, elle n'avait pas recueilli 25% des inscrits. Elle a donc dû faire ce second tour. Marine Le Pen qui prendra la parole tout à l'heure sur la scène derrière moi aux alentours de 20h30, un double discours déjà pour réagir à sa victoire ou sa défaite personnelle, mais aussi et surtout pour réagir aux scores nationaux du Rassemblement National. Combien de députés pour le RN? C'est tout l'enjeu pour Marine Le Pen ce soir. Y aura-t-il un groupe RN à l'Assemblée ce dimanche? Ce n'est pas arrivé depuis 1986 et la proportionnelle, ça serait donc tout à fait historique pour le Rassemblement National. Les premiers résultats sont en train d'arriver. On ne vous dit rien, évidemment. Rendez-vous à 20h, mais il y a un peu d'émulation. On va vous montrer aussi la salle qui se remplit doucement avec les quelques militants qui sont présents et puis aussi les caisses de champagne, les flûtes de champagne pour fêter une victoire ou oublier une défaite, à consommer avec modération, bien sûr.
Bien entendu, mon cher Gauthier Lebret avec Sacha Robin sur place à Hénin Beaumont. On verra évidemment le score de Marine Le Pen qui mise évidemment sur un groupe à l'Assemblée nationale. Mon cher Louis Dragnel d'Europe 1, tout le monde veut un groupe à l'Assemblée nationale parce que évidemment c'est ça qui permet de peser 15 députés, c'est un groupe. Absolument. Ça permet de faire quoi exactement, Louis?
Alors, ça permet d'avoir des moyens, ça permet de recruter des personnes et puis ça permet d'exister en tant qu'entité. C'est-à-dire que chaque semaine, il y a des réunions des présidents de groupe et donc ça vous permet vraiment d'avoir réellement une existence. Alors, là où on regardera vraiment de très près, c'est donc est-ce que le Rassemblement National obtient un groupe? Et puis, au sein de la NUP, puisqu'on sait à peu près qu'au lendemain de l'élection, quel que soit le résultat de la NUP, les membres, les partis qui constituent la NUP reprendront un peu leurs œufs. C'est-à-dire que le PS va essayer
de... Il va faire un groupe, voilà.
Absolument, le Parti communiste, pareil. Les écologistes, et puis la France insoumise. Et je pense qu'il y a peut-être un de ces groupes qu'on regardera avec beaucoup plus d'intérêt que les autres, c'est la France insoumise. Aujourd'hui, la France insoumise dispose de 17 députés, et est-ce que Jean-Luc Mélenchon, en créant cette NUP, a réellement réussi à faire passer de 17 à, 80, 90 députés, le nombre de députés de sa formation? Et dans ce cas, ce serait vraiment un exploit personnel pour lui, politique.
Ça serait un véritable succès s'il a mis une centaine, rien que la France insoumise, une centaine de députés, c'est un véritable succès pour Jean-Luc Mélenchon.
Totalement inédit. Il faudra regarder aussi, peut-être que le Parti Socialiste se rendra compte que finalement, l'alliance avec la NUP les a plutôt fait chuter, le Parti Communiste pareil, les écologistes pareil. Donc ça, c'est quelque chose qu'on regardera vraiment avec intérêt, puisque ça déterminera aussi qui sera la force motrice à gauche à l'Assemblée nationale pour les 5 prochaines années.
Tout peut arriver ce soir. On est en direct sur Europe 1 et sur CNews pour vivre ces résultats des législatives. Second tour, c'est la fin de cette grande session politique, Charlotte Dornelas, qui a commencé il y a des mois. On a l'impression que ça n'en finit pas, parce qu'il y a eu un écart très très grand entre le second tour de la présidentielle et le premier tour des législatives. Et c'est vrai que les Français se disent, mais quand est-ce que ça va se terminer, ces échéances politiques? Et quand est-ce qu'ils vont agir? Quand est-ce qu'ils vont enfin parler de pouvoir d'achat, de sécurité, de santé?
C'est vrai qu'il y a eu, beaucoup de temps, mais c'est surtout qu'en termes de recomposition, en tout cas de le spectre politique qui se dessine, je dirais que c'est surtout l'aboutissement depuis 5 ans même, parce que Emmanuel Macron, quand on regarde, il a voulu non pas tellement détruire la gauche et la droite, mais simplement les neutraliser politiquement. C'est-à-dire qu'il a rassemblé dans un bloc central, en gros, il s'entend sur la question européenne, le rapport à la mondialisation, le progressisme plus ou moins rapide sur les questions de société, mais en gros c'était ce bloc-là. Et qu'est-ce qu'il a fait quand... Moi je prends au sérieux quand Emmanuel Macron dit lui-même qu'il représente l'extrême-centre. C'est-à-dire qu'il a repris les racines qui étaient les mêmes, les racines idéologiques qui étaient les mêmes chez certains au PS et certains à l'UMP, chez les Républicains, et il a rassemblé tous ces gens-là. Alors qu'est-ce qu'il a créé très naturellement? Un retour aux racines à gauche et à droite. Alors on peut appeler ça extrême-centre, extrême-gauche, extrême-droite, mais on comprend surtout qu'il y a des racines extrêmement différentes, et comme vous disiez tout à l'heure, que ça va être un ingouvernable. C'est vrai sur le fond, c'est pas seulement vrai à l'Assemblée nationale, parce que quiconque a regardé les débats à l'Assemblée se rend compte qu'on n'a pas attendu demain pour constater que ça ressemble parfois plus à une cour de récré qu'à des gens sérieux qui décident de l'avenir du pays. Mais là, honnêtement, c'est surtout une différence de... En fait, la question qui se pose là ce soir avec le chiffre de l'abstention et ces fractures politiques de fond, c'est jusqu'à quel point peut-on gouverner avec un décrochage pareil de la population. Franchement, c'est vraiment une question.
C'est la question
centrale. La légitimité institutionnelle n'est pas en cause.
Non, mais
la légitimité politique, c'est compliqué. Ça devient de
d'accord.
plus en plus
quand
compliqué.
On a la Seine-Saint-Denis, département où 26% du corps électoral s'est déplacé pour voter, Gérard Leclerc, ça met en perspective tous les résultats.
Oui, absolument. C'est un vrai problème. C'est qu'il se répète élection après élection. À chaque fois, chaque soir d'élection, depuis maintenant une petite dizaine d'années, on constate que l'abstention progresse. Il y a un vrai problème, effectivement, de désintérêt des Français, de fatigue démocratique, et qui, je pense maintenant, cette fois-ci, véritablement nécessite qu'on apporte des réponses. Qu'on le veuille ou non, le scrutin majoritaire à deux tours, tel qu'il avait été conçu par De Gaulle en 1958 et revu en 1962. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus tout simplement parce que vous n'y avez plus, comme il y avait autrefois, deux groupes, un groupe de droite et un groupe de gauche, qui faisait que vous aviez une en général d'ailleurs, en tout cas depuis 1981, il y avait ce qu'on appelait l'effet essuie-glace qui faisait que la majorité passait de droite à gauche. Mais chaque fois, vous aviez une majorité assez cohérente. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Et donc, on arrive à une assemblée qui effectivement pose un problème de représentation du pays. Donc, je ne vois pas comment on pourra faire sans passer par... notamment par de la proportionnelle. Alors ensuite, il faut voir comment...
Est-ce que c'est la solution miracle à tous les maux de ce pays? Je ne suis pas sûr.
Écoutez, moi, c'est un vrai débat.
Mais on va voir le résultat de l'Assemblée ce soir. Quels sont les autres, il n'y aura pas besoin.
C'est quand même ce qui existe dans tous les pays, sauf l'Angleterre et la France.
Oui, mais alors notre système politique n'est pas
le même. C'est vrai,
non, sur la participation, moi ce qui me frappe, alors certes, il y a des départements qui votent très mal, mais regardons aussi le chiffre. Des départements qui, oui, très mal, donc très peu.
Oui, pas de
très peu, donc
valeur.
Très mal. Et ceux qui votent le plus, en fait, c'est pas non plus extraordinaire. Hein. Vous regardez le top 5.
Le Lot, par exemple.
Le Lot, à 17h, on était à 49,84. Ouais. Suivi de la Haute-Vienne, 47%. Ah.
Ouais,
la
ça,
Dordogne, à 46%. Enfin, en fait, personne ne peut même se réjouir de la fourchette haute. Et moi, je pense simplement, par rapport à ce que vous disiez, c'est qu'effectivement, d'élection en élection, à chaque fois, on explique que plus jamais ça, c'est le scandale démocratique, le problème de représentativité. Mais globalement, c'est pas avec des propositions comme le vote électronique, le vote à 16 ans. On voit quand même 70% des 18-34 ans n'ont pas voté au premier tour des élections
législatives. Et alors, ça changerait rien du tout. 50 ans.
C'est pas avec le Conseil national de la refondation. Et je pense pas que ce soit avec également la question de la proportionnelle que les gens vont se réconcilier avec le vote. Le problème de fond, je pense, c'est alors il y a plein de problèmes, mais c'est le fait qu'en fait, déjà, on voit bien, les Français ne connaissent pas leurs députés. Pourquoi ? Parce qu'on a tout fait pour décorréler le mandat national de l'ancrage local. Donc il faut des élus enracinés. Moi, je pense qu'il faut rétablir une forme de cumul des mandats. Je sais que je le répète.
Vous avez raison, vous avez des convictions.
Je pense que réellement, les Français ne peuvent pas voter pour des gens qu'ils ne connaissent pas. Et d'élection en élection, ils voient de plus en plus arriver des gens qu'ils n'ont jamais vus.
Oui,
et
tout
soudainement, ils se réveillent.
Je pense que c'est un tout petit peu général.
Parce qu'ils se
généralisent. Attendez, messieurs, il faut qu'on parte sur le terrain. Céline Géraud d'Europe 1 nous attend avec son équipe. Ma chère Céline, bonsoir. Vous suivez le ministre Clément Beaune qui se présente. C'est un scrutin qui va être très compliqué pour le ministre, c'est ça ?
C'est ça. Bonsoir Laurence, bonsoir à tous. Oui, bataille particulièrement serrée. Je suis ici dans une brasserie chic du 12e arrondissement de Paris. On est à deux pas de la place de Bastille et de la gare de Lyon. Et c'est ici que Clément Beaune a décidé de rassembler ses soutiens, ses militants. Il est attendu aux alentours de 21h45. Bras de fer très serré, je l'ai dit. Pourquoi ? Parce que Clément Beaune était, après le premier tour, devancé de 5,5 points par Caroline Mécari, la représentante de la NUP, l'avocate au barreau de Paris, redoutable adversaire. Et il n'a pas ménagé ses efforts, Clément Beaune, cette semaine. Opération séduction en mode commando. Chaque quartier de ce 4e arrondissement, une partie du 12e et du 11e ont été arpentés. La sortie des bouches de métro, les sorties d'école. Ce matin encore, il a fait le tour des 50 bureaux de vote que compte cette 7e circonscription. Et la clé de voûte, ça pourrait bien être les 2000 voix récoltées par le candidat républicain Aurélien Véron. 5% des suffrages au premier tour. Et ces 2000 voix pourraient bien faire pencher la balance. Que vont faire ces ces électeurs de droite? Vont-ils voter pour Clément Beaune? Voter blanc? Sont-ils seulement allés voter? Voilà, le suspense reste entier ici.
Merci, on le vivra avec vous, ma chère Céline Géraud, avec Florent Ferraud, du côté de chez Clément Beaune. Éric Ciotti, maintenant, Régine Delfour, vous suivez la campagne d'Éric Ciotti. Là aussi, c'est un scrutin extrêmement important pour lui.
Oui, Laurence, hein, ici, nous sommes donc dans le quartier du Port, hein, devant la permanence d'Éric Ciotti. Éric Ciotti, qui est le candidat Les Républicains sortant, qui est député de cette première circonscription des Alpes-Maritimes depuis 15 ans et qui brigue un quatrième mandat. Alors, face à lui, Greg Monetti, un jeune candidat, il a 29 ans, investi par la majorité présidentielle et qui est l'adjoint de Christian Estrosi. Alors, ici, on parle surtout d'un duel entre Éric Ciotti et Christian Estrosi, hein, les deux rivaux, hein, de la Riviera. Ici, alors donc, Éric Ciotti est arrivé en tête au premier tour avec 37,1% des voix. Greg Monetti, lui, a recueilli 25,9% des voix, mais tout va dépendre du report des voix des autres candidats, des électeurs qui avaient voté pour les autres candidats. Éric Ciotti, donc, devrait prendre la parole vers 21h15 derrière moi sur l'estrade. Il sera accompagné de Christelle Dintorni, qui est aussi une candidate LR, qui est en duel dans la 5e circonscription des Alpes-Maritimes face à Marine Brenier, qui, elle, est soutenue par Christian Estrosi.
Merci beaucoup, ma chère Régine Delfour, les rivaux de la Riviera. Très joli, on reviendra. On retiendra. Gladys Laffitte, d'Europe 1, vous êtes au ministère de l'Intérieur. Ma chère Gladys, on vous retrouvera dans un instant. J'aime bien aller plus vite que la musique. Gérard Leclerc, on parlait tout d'un coup, tout à l'heure, de cette abstention, participation, on verra ça au ministère de l'Intérieur, des moyens d'y remédier, qui parle de proportionnel, qui parle de cumul des mandats. Est-ce qu'il n'y a pas plus, quelque chose de plus, en fait? Alors, Gérard, et ensuite Mathieu Bocoté qui m'a demandé la parole.
Le constat, bien sûr, c'est que les Français, effectivement, se désintéressent actuellement du débat politique, se disent résignés, fatalistes, etc.
Ils ont voté pour la présidentielle, quand même.
Alors, ils ont voté. Oui, enfin, c'est quand même l'élection clé. Ils ont voté pour la présidentielle, mais moins que pour les précédentes présidentielles. Donc, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Toutes les élections, il y a quand même un désintérêt. Simplement, pour répondre à
Louis de
l'idée de... Oui, à l'idée du non-cumul, je constate quand même que ça n'existe dans aucun pays européen. Partout, le non-cumul existe. Et que, deuxièmement, quand on connaît le travail d'un député, si vraiment il fait son travail, excusez-moi, mais c'est un travail entre la circonscription où il est obligé quand même d'être et surtout le travail qu'il fait.
C'est un vrai travail, quand même.
C'est un vrai travail. Comment peut-on être maire d'une grande ville?
Je dis pas moi, les grandes villes.
Ville, hein. Alors si ce n'est
Gérard
Leclerc,
il y a 15 ans, l'abstention n'était pas aussi haute. Et pourtant, il y avait des députés maires qui
soient la seule cause. Je ne crois pas que ce soit la seule cause. Comment il y aurait de l'abstention dans tous les pays européens? Ce n'est pas la cause.
Retirer le pouvoir au Parlement que
par la loi. Et là-dessus,
on a tout à
fait d'accord.
Il faudrait que l'Assemblée fasse davantage son travail, notamment de contrôle du gouvernement, ce qui ne fait pas suffisamment.
Là, on verra.
Au-delà, quand on parle du pouvoir du Parlement, c'est aussi le pouvoir du politique, tout simplement. C'est-à-dire partout dans le monde occidental, ce n'est pas une exclusivité française, on voit les taux de participation baisser. Pourquoi? Parce que les politiques ont comme principale fonction aujourd'hui de nous expliquer leur impuissance. Ah, je ne peux pas faire cela, j'ai tel traité international qui était signé par je ne sais qui, devant je ne sais quel forum international qui dit que j'ai pas le droit de le faire. Ah, on peut pas réguler sur cette question économique parce que... Non, mais ne cessant d'expliquer qu'ils ne peuvent rien faire, les citoyens finissent par les croire un peu. Et ensuite, une question d'offre politique. C'est-à-dire, quand on regarde les discours, dès lors que le discours sort un peu du consensus majoritaire obligé, eh bien, la machine à insultes commence. Et les épithètes extrémistes, cibles, vous le disiez plus tôt, on fait des barrages et encore des barrages. Le commun des mortels devant cette pauvreté de l'offre politique finit aussi par se dire « j'ai peut-être quelque chose de mieux à faire ce dimanche ».
Moi, j'aime beaucoup cette phrase de Charlotte Dornelas, « on a les élites qu'on mérite ». Effectivement, il y a un problème d'élite politique, de classe politique dans notre pays ou pas?
Oui, forcément, elles sont issues d'une société. Alors, on peut reprendre la question de la baisse générale du niveau du rapport aux politiques, du niveau du débat lui-même, de la possibilité même du débat.
Et la représentativité de la société française. Ils sont tous à peu près issus. Il y en a très peu de la société civile, quand même.
Non, il y en a quand même. Et
ça
puis même
évolué,
dans le monde politique, en fait, il y a des profils extrêmement, extrêmement compétents. Il y en a d'autres qui ne le sont pas du tout. Bon, ça, c'est un peu inévitable. Alors, c'est peut-être plus vrai quand on veut avoir l'image d'une assemblée qui n'est issue que de la société civile. Et on a compris, avec la dernière assemblée, que parfois, c'était quand même bien que ce soit et que ça reste un métier. Mais en effet, la vraie question qui se pose, c'est de savoir à quoi sert faire encore le politique, parce qu'il y a non seulement la question, en effet, des cours suprêmes, qu'elles soient nationales ou européennes, c'est-à-dire la place du droit sur la question même de la justice, hein, l'obsession du droit sur toute la question politique, mais au-delà de ça, c'est le recours au cabinet de conseil, vous savez, qui est apparu, mais cabinet de conseil à la place de qui ? C'est une réponse quand même qu'on n'a pas. C'est en permanence qui décide vraiment, qui a entre les mains les décisions politiques, et en plus avec un Emmanuel Macron qui n'est jamais aussi chef que quand il est en train de parler de l'Europe ou à l'extérieur des frontières françaises, ça accentue encore un peu plus cette idée-là.
Il est 19h31 si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews, soirée second tour des législatives. On va partir au ministère de l'Intérieur. Gladys Laffitte d'Europe 1 nous attend. Là, le chiffre que vous avez, c'est la participation.
Oui, c'est un chiffre qu'on a arrêté à 17h, c'est 38,11%. Les électeurs se sont donc encore moins déplacés que dimanche dernier, il y a un petit peu plus d'un point d'écart. En revanche, c'est mieux qu'il y a 5 ans à la même heure, mais il faut rappeler qu'à cette époque-là, le taux de participation était historiquement bas à 35,33%. Et donc aujourd'hui à 17h, 38,11%. Si on regarde un petit peu plus dans le détail, il y a des départements qui se sont remobilisés par rapport à 2017. La Savoie, plus 10 points, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, plus 9 points. Dans le Calvados aussi, on note un sursaut avec 40% de votants. C'est 6 points de plus qu'il y a 5 ans, plus 4 points aussi à Paris, dans la capitale. Et c'est dans le Lot qu'on a le plus voté aujourd'hui, bien au-dessus de la moyenne nationale, puisque près d'un électeur sur deux se sont rendus aux urnes avec un sursaut de 12 points par rapport à il y a 5 ans. A l'inverse, dans le bas du tableau, moins d'un électeur sur trois s'est déplacé en Seine-Saint-Denis. Alors c'est traditionnel dans ce département. Peu de mobilisation aussi, et c'est plus surprenant, en Moselle et dans le Bas-Rhin avec 30% de participation. C'est donc un petit peu moins d'un électeur sur trois. Voilà pour les derniers chiffres qu'on a à 17h.
Merci beaucoup Gladys Laffitte d'Europe 1 pour ces chiffres donc, de l'intérieur. Oyonnax, Damien Abad, ministre des Solidarités, se bagarre pour être réélu. Il était en ballottage favorable. On est avec Jean-Luc Boujon d'Europe 1, avec Olivier Madinier. Où est-ce qu'on en est de votre côté ?
Eh bien, le dépouillement est en cours ici à Oyonnax. On devra voir les résultats assez vite puisque Damien Abad a prévu une prise de parole aux alentours de 20h. Donc, on sera fixé assez rapidement pour savoir si effectivement Damien Abad est à nouveau pour le troisième mandat député de la 5e circonscription de l'Ain et s'il peut rester en poste au ministre des Solidarités. En tout cas, clairement, il est sous pression parce que cette semaine, il y a eu une nouvelle accusation contre Damien Abad, accusation pour tentative de viol d'une femme pour des faits remontant à 2010 et qui est un témoignage paru sur le site de Mediapart. Et même tout à l'heure ici à Oyonnax, une manifestation de femmes, trois femmes qui ont demandé à Damien Abad de démissionner. Ça montre le degré de pression qui s'exerce sur le ministre des Solidarités qui pourtant devrait être plutôt serein parce qu'il a fait un très bon score dimanche dernier. Il est arrivé en tête, 33% des voix contre 23% à son adversaire de la NUPES, Florence Pisani. 10 points d'avance, ça aurait dû suffire, mais cette nouvelle accusation peut-être changer la donne. En tout cas, c'est ce que vont dire tout à l'heure les électeurs de l'Ain. Il y a dimanche, ils avaient accordé une grande confiance à Damien Abad. On va voir si c'est encore le cas ce dimanche. Donc, résultat très vite après 20h et prise de parole dans la foulée de Damien Abad.
Merci. Jean-Luc Boujon d'Europe 1 avec Olivier Madinier sur place. Je ne sais pas si on peut partir du côté de Reda Emrabi pour voir ce qui se passe pour la candidate qu'il suit, qui est une candidate NUPS, Rachel Keke, qui est une femme de ménage, qui va illustrer évidemment la diversité à l'Assemblée. Reda Emrabi avec Océane Lerouge, là pareil, le dépouillement est en cours, ça vote encore de votre côté ?
Oui, effectivement, les bureaux de vote qui vont fermer d'ici quelques minutes dans cette circonscription clé pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il s'agit effectivement de deux femmes qui ont eu une vie avant la politique. Il y a d'un côté donc Rachel Keke, vous l'avez rappelé, Laurence, qui serait la première femme de ménage à rentrer à l'Assemblée nationale. Elle a obtenu à peu près 38% des voix au premier tour. Et puis en face, une ancienne nageuse, une ancienne ministre des Sports, elle aussi figure symbolique de la Macronie, Roxana Maracineanu, qui a atteint 23% des voix au premier tour. Elle a 14 points d'écart avec Rachel Keke. Alors plusieurs questions se posent. Est-ce que cela va permettre à Rachel Keke d'obtenir la majorité aujourd'hui, sachant qu'il y a très peu de réserves? Que vont faire les électeurs, les Républicains, qui ont voté à 18% dans cette circonscription? Et la question aussi, c'est de savoir est-ce que cette circonscription va compter dans la majorité absolue que recherche Emmanuel Macron et qui pourrait être très, très difficile à atteindre ce soir.
Merci beaucoup Adam Rabi, avec Océane Lerouge et Loïc Tonnefa. On parlait de la représentativité en termes de catégorie socio-professionnelle de l'Assemblée, Gérard Leclerc. Là, on a quelqu'un qui ressemble, encore une fois, voilà, qui vient des classes populaires. Et c'est important aussi ou pas?
Oui, bien évidemment. Plus l'Assemblée ressemblera à la population, mieux ce sera. Alors, on a quand même déjà beaucoup progressé. Rappelez-vous, il y a encore 20 ou 30 ans, il y avait très peu de femmes. Maintenant, il y aura quasiment dans la prochaine Assemblée.
Il a fallu une loi.
Il a fallu l'imposer aux partis politiques.
C'est pas arrivé naturellement.
Y compris d'ailleurs l'imposer financièrement, hein, parce que pour avoir des financements politiques, il fallait avoir suffisamment de candidats de femmes. Bon, là, on y arrive à peu près. Mais au niveau des catégories professionnelles, on en est très, très loin. C'est vrai que ça reste actuellement des...
Des cadres sup, fonctionnaires, profs...
Voilà, exactement. Donc, alors, c'est pas non plus... Faut pas... personne n'imagine qu'on ait une assemblée qui représenterait exactement professionnellement, par CSP, par catégorie socio-professionnelle, la réalité du pays. Mais quand même, à mon avis, il y a quand même du progrès à faire et ce serait bien que ça évolue.
Charles Dornelas, tu ne te sens pas d'accord?
Mais en fait, je ne suis pas vraiment d'accord parce que, alors déjà, je ne suis pas forcément d'accord sur les catégories socio-professionnelles, mais ça se défend plus quand même que la question des femmes. Je ne comprends pas qu'on puisse imaginer qu'on soit représenté par quelqu'un qui nous ressemble physiquement, c'est-à-dire une femme pour les femmes. Et d'ailleurs, petit truc un peu drôle, c'est qu'en effet, par la loi, on a imposé que les femmes soient également représentées que les hommes à l'Assemblée, et on vient de discuter de ces dernières années où l'abstention n'a cessé de croître.
Alors, je ne suis pas sûr qu'il faille faire un lien de cause à effet.
Je vous dis simplement que la représentativité ne dépend pas simplement du seul fait de se ressembler. Et sur la catégorie socio-professionnelle, c'est vrai aussi dans une moindre mesure, parce que là, pour le coup, on peut avoir, par le métier qu'on exerce, il y a des choses que l'on sait différemment d'un métier différent. D'accord. Maintenant, il y a quand même une ligne idéologique quand on défend des choses en politique. Et il y a deux femmes de ménage en France ne sont pas obligées de penser pareil sur tout.
Me semble-t-il que sans que ce soit bien évidemment au pourcent près, mais qui est que l'Assemblée, je vous dis, ressemble au pays. Mmh. Et donc qu'il y ait à peu près autant de femmes que d'hommes, même si
elle ne ressemblera
pas. Et qu'il y ait un certain nombre d'ouvriers, qu'il y ait un certain nombre. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Personne n'imagine que ce soit mauvais. En revanche, imaginez que ça, c'est de la représentativité et que ça va permettre de reconstruire le discours politique. Je pense que c'est une illusion absolue. Ce qui compte, c'est ce que les gens disent et ce qu'ils pensent et ce qu'ils font. Au-delà de ça, on voit bien que l'Assemblée nationale en particulier a assez peu de pouvoir. La question, elle se pose dans ce cas-là au niveau de la haute fonction publique. Aussi, le sujet, c'est surtout qu'il n'y a plus de partis. Les partis, on a renoncé aux partis. Emmanuel Macron a constaté que les partis qui précédaient étaient à bout de souffle. Il l'a constaté. C'est pas lui qui les a étranglés. En revanche, il n'a rien reconstruit derrière, et même il a participé au fait que personne ne puisse se reconstruire. Mais quand vous n'avez pas de parti, un parti c'est quoi? C'est un creuset sociologique, c'est pour que précisément vous puissiez mettre ensemble et la femme de ménage, puisque vous parliez d'elle, et l'infirmière, et le médecin, et l'assuré maladie, qui tous n'ont pas le même intérêt, mais qui au nom d'une vision politique et au nom de valeurs se mettent d'accord sur un programme. À partir du moment où on a renoncé à ces creusets sociologiques, et pourtant mais le fondement même de la démocratie représentative, il ne peut plus y avoir de discours politique. Donc on peut mettre tous les gadgets qu'on veut, faire voter les jeunes, les très très vieux, les morts, qui vous voulez, parce qu'on est dans une logique de sur l'avenir, nos enfants, etc., ou d'héritage.
Mais c'est le boulot des partis politiques.
Le sujet, c'est qu'on a renoncé aux partis politiques. Et regardez, si l'Assemblée est ingouvernable, encore faut-il qu'il y ait en face des partis qui soient capables de négocier quelque chose parce qu'ils auraient eux-mêmes une vision et eux-mêmes un programme.
Mathieu Bock-Côté.
Oui, la question de la représentativité est une question plus complexe qu'il n'y paraît. Est-ce qu'on veut la représentativité, dis-je, selon les sexes, selon les genres, hein, c'est une nouvelle catégorie qui est apparue, selon les catégories socio-professionnelles, selon la couleur de peau, certains nous disent que ça compte, ou selon les idées, selon les courants de pensée. Or, me semble-t-il que la principale faiblesse, et encore une fois, j'internationalise le problème un peu, partout dans le monde occidental, c'est qu'il y a des courants de pensée au grand complet qui sont rarement invités, soit à l'Assemblée, soit dans le débat, parce qu'ils sont étiquetés de telle manière qu'on dit on ne doit parler d'eux qu'en s'en méfiant. Prenez le fameux populisme dont on nous parle souvent. On dit, oh là là, il ne faut pas que... présentait, rappelez-vous la présidentielle, près de 50% de la population était tentée par les populistes. Et là, on présentait comme une terreur absolue l'idée que ces courants de pensée percent dans le débat public. Ben, si on accepte la représentation...
Il semble qu'on les a entendus sur les médias, non?
Non, mais toujours sur le mode suspect, toujours sur le mode inquiet. Et surtout, je reviens sur cette idée, la représentativité, c'est la représentativité des courants de pensée, ce qui implique de ne pas les disqualifier à l'avance de telle manière en les étiquetant la manière de sale petit canard.
Oui, mais ça, c'est la plus vieille histoire de la politique. C'est les communistes avec le couteau entre les dents.
La
droite qui était qualifiée de fasciste immédiatement, etc. Non. Et aujourd'hui, l'extrême gauche qui est islamo-gauchiste.
Non, mais que les politiques le fassent entre eux.
C'est regrettable.
Vous parliez de catégories professionnelles. Il me semble quand même que sur ces dernières années, on a eu un discours dominant qui disait aux gens, à certaines autres catégories de la population, si tout va très bien, la mondialisation, ça se passe très bien pour tout le monde. C'était le cas en moyenne, ça ne l'était pas pour certaines catégories de la population ou pour certaines parties du territoire. Même chose, on peut le décliner sur l'Europe, on peut le décliner sur un certain nombre de choses. Et comme on n'a pas su entendre ceux qui disaient, ben non, à ma hauteur, ça ne va pas très bien. Vous savez, c'est juste la question de la moyenne. Hein. J'ai les pieds dans le four, la tête dans le frigo, ma température moyenne est bonne. Mais si j'ai quand même la tête dans le four, ben j'ai très chaud à la tête.
Mathieu, votre côté, un dernier mot, parce que là, l'image est tellement parlante que nous escoucher,
non, mais c'est ça, parce que c'est au nom de la moyenne, on a renoncé à la représentation de ceux qui vivaient des écarts avec justement cette moyenne. C'était pire que ça, on les a condamnés en disant populisme, fascisme, extrémisme, quand ils osaient dire ce qu'ils vivaient.
Mathieu. Si je peux me permettre, vous dites, les partis s'invectivent entre eux. Ça va de soi. Le problème, c'est que les invectives sont souvent reprises par une bonne partie de la classe médiatique qui fait un travail militant sans même s'en rendre compte. Et moi, ce qui me frappe beaucoup, et ça, il faut le voir un peu partout en Occident, c'est à quel point, quelquefois, les médias qui ne cessent de nous dire « allez voter, surtout n'oubliez pas d'aller voter », mais entretiennent un environnement, un climat idéologique qui dépolitise profondément la population, qui abolissent des débats nécessaires en les réduisant toujours à des querelles morales entre le bien et le mal, les gentils, les méchants. Le propre d'un débat politique, si on veut un débat politique, c'est qu'aucun des camps n'a le monopole du bien. Or, quand on nous fait le coup des barrages à répétition dont je parlais plus tôt, eh bien, les gens n'ont pas envie d'aller voter.
C'est vrai que ça a culminé, ça, en 2022, Charlotte Dornelas, hein, ce côté on ostracise un camp, on monte les uns contre les autres.
C'est surtout qu'à force de vouloir, je reprends le mot de gadget, mais c'est pas nécessairement du gadget. Moi, que les choses soient claires sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas un mal en soi qu'il y ait une femme à l'Assemblée ou que tel député soit femme de ménage. Simplement, ça ne dit rien en politique. J'espère que ça continue à ne rien dire des idées qui sont portées. Et on n'est pas femme de ménage. Il n'y a pas un déterminisme quand on est une femme à penser comme telle ou quand on est femme de ménage ou cadre supérieur à penser autrement. Ou alors, on rétablit très clairement la grille de lecture de la lutte des classes pour toujours, de la lutte des sexes, de la lutte des races, pourquoi pas. Et la politique se résume à ça. Moi, je crois qu'on peut être représenté par quelqu'un qui ne nous ressemble pas et qui ne fait pas le même métier que nous.
Il y a les mêmes idées que nous.
Vous mélangez deux questions, vous mélangez deux sujets.
Je finis simplement parce que pendant qu'on s'acharne à vouloir une représentativité qui est celle-ci, c'est-à-dire sur des femmes, des catégories socio-professionnelles, en effet, on n'arrive pas, il y a quelque chose de parfaitement incohérent dans le discours qu'on a. On va prendre deux exemples. Allez, Marine Le Pen, tout le monde oublie que c'est une femme hein, quand on la reçoit sur un plateau de télévision ou quand il s'agit de qualifier sa possible accession au pouvoir de manière assez générale, tout le monde oublie que c'est une femme et que ce serait formidable d'avoir une femme à l'Élysée. Donc là, il y a une incohérence. Ça veut dire qu'au-delà d'être une femme, elle a aussi des idées. Bah, probablement.
Bien... Bah oui, mais
donc,
vous dites,
alors, deuxième exemple, Charlotte, et après on peut avancer.
Que j'ai perdu en le disant, mais qui va revenir.
Mais non, mais votre argument, justement, retourne votre argument, ça prouve bien que c'est pas l'idée, c'est pas absolument en fonction des sexes, etc., des catégories
sociales. Bah, alors, c'est sans parler de ça.
C'est au niveau des idées. Mais simplement, l'idéal, enfin, la bonne situation, c'est que quand vous avez des partis qui sont sur, effectivement, des idées, ce qui est le cas aujourd'hui, parce que vous pouvez pas dire qu'elles ont les mêmes idées, on est sans doute même le seul pays où vous avez, ça va vraiment des trotskistes jusqu'à la droite, disons, très extrême.
Non, pour faire de polémique.
Il n'y a pas beaucoup de pays où vous avez deux candidats trotskistes aux élections présidentielles. Il n'y en a pas beaucoup.
Particularité française, vous avez pas tort. Charlotte, vous avez retrouvé le deuxième exemple.
Oui, mais parce que l'autre exemple, on parle très souvent, en fait, dans les abstractions, on a des obsessions. Par exemple, on s'inquiète de la fracturation du pays et de la fracturation du pays, notamment sur le terrain politique. Les gens n'arrivent plus à se parler. Quand la NUPES, là, je prends un exemple qui est loin de moi, très loin de moi. Quand la NUPES réussit à constituer une alliance sur certains sujets en disant il nous faut gagner pour être ensemble sur certains sujets. Évidemment qu'il y a des sujets sur lesquels on n'est pas d'accord. Eh bien, le discours global, sans rentrer dans le détail, sans attendre de savoir sur quoi ils sont d'accord, c'est en général les gens pas d'accord avec cette alliance qui expliquent tout simplement que c'est honteux parce qu'ils ne sont pas d'accord. Mais ça n'a aucun sens.
Alors, il est 19h45. Pardon, Charles, c'est moi qui vous interromps.
Non,
il est 19h45. On est en direct sur Europe 1 et sur CNews pour cette soirée spéciale second tour des législatives. On va aller dans les deux camps. camps rivaux, le camp Renaissance, majorité présidentielle, et le camp NUPS, Jean-Luc Mélenchon. D'abord, Élodie Huchard, du côté de Renaissance, vous êtes avec Thibault Marcheteau. L'attente, évidemment, l'attente des résultats et un peu de fébrilité. Hein.
Oui, et puis surtout, Laurence, il faut comprendre que ce soir, derrière moi, au QG de Renaissance, ça ne sera pas du tout la même soirée que dimanche dernier. Vous vous rappelez, dimanche dernier, un certain nombre de ministres, même Elisabeth Borne d'ailleurs, étaient passés au QG. Cette fois, ça ne sera pas le cas. Il va y avoir deux moments, en fait, lors de cette soirée. D'abord, à 20h, les militants qui commencent à arriver juste derrière moi vont assister à la proclamation des premiers résultats. Et puis, c'est aussi une soirée extrêmement locale, en fait, puisque Sylvain Maillard, le député de la circonscription, s'exprimera depuis ce QG de Renaissance. On nous explique qu'Elisabeth Borne choisit de rester à Matignon parce qu'elle reprend son poste de Premier ministre immédiatement après la proclamation des résultats et que donc elle n'a pas forcément vocation à venir ici. Et puis les ministres, eux, vont rester en circonscription pour remercier les militants, quel que soit le résultat. Alors peut-être que certains passeront un peu plus tardivement dans la soirée, évidemment, on vous tiendra au courant.
Merci beaucoup, Élodie Huchard. Du côté de la NUPS, Jean-Luc Mélenchon qui se retrouve à l'Élysée-Montmartre, Arthur Delaborde et Jean-Laurent Constantini. Là, il y a un peu plus d'ambiance, Arthur.
Ambiance décontractée, plutôt même joviale ici. Nous sommes juste devant l'écran géant installé devant cette salle de l'Élysée Montmartre. Vous voyez donc déjà beaucoup de militants qui sont réunis ici. On attend au moins 650 sympathisants à l'intérieur, en plus donc de ces personnes que vous voyez en ce moment qui se trouvent à mes côtés. Une salle de l'Élysée Montmartre qui a été réservée, qui est beaucoup plus, avec une capacité beaucoup plus importante que celle de la semaine dernière. Nous sommes au cœur du 18e arrondissement de Paris, où toutes les nuances de l'Union de gauche vont donc être représentées ici. On attend notamment Olivier Faure pour le Parti Socialiste, Julien Bayou pour Europe Écologie Les Verts, ou encore Yann Brossat pour le Parti Communiste. Jean-Luc Mélenchon, lui, est déjà là dans cette salle de l'Élysée Montmartre. Il va s'exprimer aux alentours de 20h30, donc après l'annonce des premières tendances.
Merci Arthur Delaborde d'Europe 1. On vivra ça évidemment en direct sur Europe 1 et sur CNews. Vous étiez avec Jean-Laurent Constantini. Deux salles, deux ambiances. Là, on a vu deux choses assez différentes. Allez, un dernier tour. Alors du côté des Républicains, on n'est pas allé depuis le début de la soirée. Alexandre Chauveau d'Europe 1 avec Nicolas Vinclair. Alors là, on s'attend évidemment à une soirée un peu moins bonne qu'en 2017, mais ils espèrent bien résister, les LR, c'est ça ?
Oui, exactement, avec une soirée assez modeste organisée ici au siège des Républicains. On attend une centaine de militants, certains cadres, et Christian Jacob qui prendra la parole juste derrière moi tout à l'heure après 20h pour commenter ses résultats. LR qui joue gros ce soir, 73 candidats qualifiés au second tour, dont 60 sortants. Et on surveillera particulièrement les circonscriptions d'Éric Ciotti dans les Alpes-Maritimes, celle d'Aurélien Pradier dans le Lot, ou encore les deux derniers représentants des Républicains à Paris, dans le 16e et le 17e arrondissement, Francis Piner et Brigitte Koester. Une chose est sûre, LR aura de toute façon beaucoup moins de députés qu'il y a 5 ans, mais son influence pourra rester assez importante dans l'éventualité où Emmanuel Macron n'aurait pas de majorité absolue. Et puis enfin, dernière chose, ce sera la dernière soirée de Christian Jacob en tant que président des Républicains. Il quittera son poste à l'automne et la question de sa succession est désormais dans toutes les têtes à droite.
Effectivement, merci beaucoup Alexandre Chauveau et Nicolas Vinclair. Ça c'est intéressant parce que pour plusieurs partis, là on parle des LR, il va y avoir un après. Le Rassemblement National, pareil, la question de la présidence du mouvement va être posée très très rapidement. Bon, évidemment, du côté d'Emmanuel Macron, ce ne sera pas le cas. Mais oui, c'est intéressant quand même de voir comment les formations en politique vont évoluer dans les semaines à venir.
Absolument, surtout pour les Républicains, parce qu'en fait, le président du Parlement, le prochain président
Louis
ou la prochaine présidente devra désigner, en fait, déterminer la ligne très claire des Républicains. Et il en va, en fait, de la reconstruction de ce parti. Est-ce que, en 2027, les Républicains ont vocation à présenter un candidat à la présidentielle ? Est-ce que les Républicains, pour reprendre les mots des détracteurs d'Emmanuel Macron, sont solubles dans le macronisme ? Tout ça, ce sont des questions, en fait, qui vont être réglées assez rapidement, parce que les Républicains vont devoir, en tout cas, s'ils veulent survivre, constituer un groupe, éviter au maximum les départs. Donc ça, ce sera très important à suivre. Je voulais juste revenir sur une toute petite chose.
Allez-y.
Mathieu,
après, on parlera du Rassemblement National.
Voilà, évoqué tout à l'heure la question du Front Républicain, les barrages. Vous savez, c'est des choses qu'on entend beaucoup depuis maintenant beaucoup d'années. Et puis on explique que progressivement, les barrages sont en train d'être levés, au moins par les Français. Moi, j'ai trouvé qu'il y a quelque chose qui était intéressant. En fin du premier tour, donc dimanche dernier, Elisabeth Borne explique que les adhérents, les militants, les sympathisants d'Emmanuel Macron doivent voter donc pour des candidats républicains. Et la question s'est posée pour la NUP, est-ce que les candidats de la NUP sont républicains ? républicain ou anti-républicain. Et là, pour le coup, Emmanuel Macron n'a pas été, et puis son gouvernement, Elisabeth Borne, n'ont pas été capables, en fait, d'apporter une réponse claire dès dimanche soir dernier. Elisabeth Borne, par exemple, explique que Fabien Roussel, le patron du Parti communiste, lui, est républicain, il n'y a pas de problème, on peut voter pour lui. Et que dans le même temps, il y a d'autres candidats qui sont investis sous les mêmes couleurs politiques pour lesquels les sympathisants La République En Marche ne peuvent pas voter. Et du coup, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'intellectuellement, c'est un peu le bout de la logique. C'est-à-dire que on voit bien qu'on a du mal à décrire qui est républicain, qui ne l'est pas. Je pense que les électeurs aujourd'hui, en fait, se fichent complètement de savoir si le gotha médiatique rend respectable ou votable tel ou tel candidat. Et du coup, on verra, je trouve, c'est intéressant de voir si ça a une traduction dans les urnes. Parce qu'à force d'en parler, en fait, le problème, c'est que le mot n'a plus beaucoup de substance.
Ah oui, il a été vidé de son contenu.
Quelques minutes.
Je passe la parole dans un instant, Mathieu Bock-Côté. Juste, on part sur le terrain. Gauthier Le Bret se trouve à Hénin-Beaumont, où Marine Le Pen espère être réélue. Vous êtes avec Sacha Robin. Expliquez-nous ce qui se passe autour de vous, mon cher Gauthier.
Eh bien, écoutez, chère Laurence, les quelques militants derrière moi, plusieurs militants, eh bien, ont les yeux rivés vers les écrans de télévision pour attendre tout à fait les résultats qui vont tomber donc dans quelques minutes. Vous l'avez dit, Marine Le Pen qui attend elle aussi les résultats. Elle est candidate donc dans cette circonscription du Pas-de-Calais. Elle avait fait plus de 50% au premier tour, mais elle avait dû se soumettre à un second tour puisqu'elle n'avait pas réussi à avoir 25% des inscrits. L'abstention était trop forte. Elle va faire son discours sur la scène que Sacha Robin va vous montrer aux alentours de 20h30. Marine Le Pen qui doit arriver donc aux alentours de 20h30 pour réagir très rapidement aux résultats qui tomberont. Vous le savez, c'est un classique à 20h.
Merci Gauthier Le Bret, Sacha Robin. Donc pour nos auditeurs, on voyait juste le podium sur lequel Marine Le Pen va prendre la parole dans un instant. On va s'intéresser à Jeanne Cancard, qui elle suit Sandrine Rousseau. Jeanne Cancard, Sandrine Rousseau doit arriver dans le café où vous vous trouvez, c'est ça ?
Oui, exactement. Sandrine Rousseau est attendue ici aux alentours de 22h30 dans ce café du 13e arrondissement de la capitale. Mais ses militants, ses soutiens commencent déjà à arriver ici sur la terrasse. La soirée va se tenir, elle, à l'étage dans ce plus grand café-bar du 13e arrondissement de Paris. Nous sommes ici dans la 10e circonscription de Paris. Alors, elle est présente dans la 9e circonscription. On est vraiment à la frontière. Et cette soirée, ce QG, il devrait peut-être être sous le signe de la victoire, en tout cas de la revanche pour Sandrine Rousseau en cas de victoire. Elle qui avait perdu dès le premier tour. Elle est limitée dès le premier tour en 2017 lors des précédentes élections législatives, et elle aussi qui avait perdu lors de la finale de la primaire écologie. Sandrine Rousseau qui, la semaine dernière, dimanche dernier, a récolté près de 43% des voix face aux députés de La République En Marche, face aux députés qui pourraient donc être le député sortant qui, lui, avait seulement récolté 27% des voix. Une soirée donc avec deux potentiels futurs députés, à la fois Sandrine Rousseau et à la fois Rodrigo Arena, qui lui se présente dans la 10e circonscription, là où nous trouvons à Paris, et qui lui aussi avait récolté la semaine dernière 43% des voix.
Merci Jeanne Cancard avec Johan Tritz et Antoine Durand. Autant de personnalités à suivre, c'est intéressant. Le dernier petit tour que nous allons faire sur le terrain avant les résultats, il est à 19h, quasiment 54, dans 6 minutes vous saurez qui a remporté les législatives. C'est Valérie Labonne, elle est avec Alice Delage du côté d'Amélie de Montchalin, qui est la ministre qui a mis en jeu qui pourrait démissionner si elle n'est pas élue. Valérie, expliquez-nous où vous êtes et ce qui se passe autour de vous, Valérie.
Alors oui, bonsoir Florence. Nous sommes ici dans la 6e circonscription de l'Essonne, à Massy, à côté de la mairie. Et en fait, Amélie de Montchalin vient juste d'arriver, veut rejoindre son équipe et s'est enfermée dans un pavillon dans l'attente des résultats. Autour de moi, il y a énormément de journalistes qui viennent ici pour attendre avec elle les résultats de cette ministre, effectivement, qui met son poste en jeu, car la règle tacite fixée par le président de la République, Emmanuel Macron, c'est qu'en cas de défaite, elle devra quitter le gouvernement. Et il faut dire qu'elle est en position assez défavorable, puisqu'elle est arrivée seconde au premier tour des législatives. C'est le candidat de la coalition de gauche de la NUP, Jérôme Guedj, qui est arrivé premier. Elle accuse 7 points de retard face à son concurrent, et elle a donc mené une campagne assez dure pour essayer de rattraper son retard. Ici, on a senti un petit peu de fébrilité, car il faut dire que le point de rendez-vous dans son QG a été fixé extrêmement tardivement, et on a vu très peu de militants se rendre sur place pour le moment.
Merci beaucoup Valérie Labonne, avec Alice Delage et Victor Chabert. C'est très intéressant tout ce qui va se passer ce soir, Mathieu Bock-Côté, parce que bon, y a les ministres, les personnalités, on en parle, et puis il y a vraiment ce que l'Assemblée nationale va produire en termes de résultats politiques.
Une assemblée diversifiée.
Si tant est qu'elle soit gouvernable.
Non, mais qui sera diversifiée assurément, plus diversifiée que les précédentes, assurément aussi, mais qui, rappelons-le, sera en décalage profond avec, on pourrait dire, la majorité de la population qui vit désormais dans un autre monde politiquement. Et je pense, et en plus, quand on s'intéresse à la cohérence des groupes, ça me semble, ce n'est pas un détail, on parlait de la reconstruction des Républicains. Moi, je regarde les Républicains et je me dis, entre une ligne qui a, rappelons ça, Retailleau, Bellamy, Wauquiez, mm-hmm. et de l'autre côté, une ligne Larcher, Aurélien Pradier et trouver le troisième, je cherche à voir en quoi c'est le même parti, sinon qu'ils ont des intérêts institutionnels partagés. Quand je regarde la majorité présidentielle, entre, bon, Papendiaï n'est pas candidat, mais Papendiaï et Gérald Darmanin, je cherche à voir la vision commune. Et quand on regarde le groupe de la gauche radicale, Jérôme Guedj, qu'on vient de mentionner, et d'autres, Mme Obono et quelques autres, encore une fois, je cherche. Donc, nous ne sommes pas ici sur devant des nuances à l'intérieur d'une même ligne, mais dans des lignes contradictoires au sein d'un même parti.
Alors, Jean-Sébastien Ferjou, un petit mot avant. Dans 3-4 minutes, on saura les résultats.
Non, mais c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Effectivement, les partis ne sont plus véritablement ni des creusets sociologiques, ni des creusets idéologiques. Donc, ils se sont figés sur soit de vieilles habitudes, soit des compositions d'intérêts. Mais par ailleurs, je pense qu'il y a une forme, l'abstention est très élevée, il y a une forme de dignité dans l'abstention. Je pense qu'il y a une abstention qui est très politique. C'est-à-dire, c'est pas que des gens qui ont oublié, qui n'étaient pas au courant, qui ne s'intéressent plus à la politique. C'est-à-dire, ils constatent que nous avons eu un cycle électoral qui s'est fait dans la confusion. Emmanuel Macron a joué sur le vote utile depuis le début de la campagne de l'élection présidentielle, mais le simple réflexe de vote utile en disant votez pour moi et pas pour les autres parce que les autres sont incompétents et ou ils sont dangereux, ça ne suffit pas et c'est une forme de mépris de la démocratie que de le faire. Mmh. Après, les autres n'ont pas réussi à mobiliser non plus, mais je pense que dans cette abstention-là, il y a une véritable dignité, une véritable revendication, parce que il faut bien sûr que voter est un bien absolument précieux dans une démocratie, mais quand il y a face à vous une représentation qui ne parvient plus justement à représenter les Français, il faut bien essayer de trouver un moyen de pousser le système, peut-être à la crise, parce que parfois ce sont les crises qui permettent de refonder les choses.
Charlotte Dornelas, on peut ce soir arriver à une crise politique, on peut, cette élection, ces élections peuvent déboucher dans les semaines à venir sur une crise politique dans notre pays ou pas ?
C'est-à-dire qu'il va y avoir... Enfin, oui, ça va être compliqué à gouverner, mais je crois que la crise politique, elle est déjà là avant même cette élection. Et même, j'ajouterais que le jeu de au-delà de moi, enfin que le fait qu'Emmanuel Macron, pardon, joue cette fois-ci sur moi ou le chaos, ça fait quand même 5 ans surtout qu'il fait le coup. Au moment des européennes, c'était son clip de campagne avec la lèpre populiste où on voyait des rues remplies de déchets et des fleuves qui sortaient de leur lit pour expliquer qui étaient les populistes en face de lui. Et même en 2017, il a déjà été élu contre Marine Le Pen. Donc c'est vrai qu'Emmanuel Macron, au moment des élections, au moment de se présenter devant nous, a plus un discours de voter pour les réseaux qu'un discours d'explication très claire de ce qu'il veut faire de ce pays. Et d'ailleurs, je nous mets au défi de savoir exactement qu'est-ce qu'il va faire. Donc, est-ce qu'il y aura une crise politique ? Je crois qu'elle est déjà là, une crise de représentation.
Oui, non, mais après,
c'est
voilà, une crise après, qui amènera une dissolution de l'Assemblée.
Ça dépendra de ce que Emmanuel Macron lui-même veut faire de ce quinquennat. Franchement, on a du mal à le savoir, même aujourd'hui.
Rapidement, moins d'une minute.
Je reviens sur ce que dit Charlotte Dornelas. Oui, il y a une crise politique qui existe depuis beaucoup d'années. Je pense qu'Emmanuel Macron est parvenu à accéder au pouvoir lors de sa première présidentielle. Précisément grâce à cette crise politique. Et aujourd'hui, la question qu'on se pose, si et seulement si Emmanuel Macron n'a pas de majorité absolue, eh bien là, pour le coup, ça va être plus une crise technique politique avec, si vraiment il n'a pas sa majorité absolue, de combien de députés, de combien de voix il a besoin pour faire voter un certain nombre de textes. S'il a besoin de 3, 4, 5 voix, c'est pas énorme. S'il a besoin de 15, 20, 30, 40, 50 voix pour faire voter un texte, alors là, ça change à peu près tout.